Chapitre 4. Jean Taureau. Nous avons dit que celui des cinq buveurs qui avait demandé des cartes et qui s'était baptisé lui-même du nom de Jean Taureau, lequel nom semblait du reste merveilleusement approprié à son encolure, n'attendait qu'une occasion favorable pour faire éclater sa mauvaise humeur. L'occasion ne tarda pas à se présenter. Nous espérons que le lecteur nous suit avec assez d'attention pour n'avoir pas oublié l'observation que Ludovic avait faite à l'endroit de l'atmosphère de la salle. En effet, la vapeur des mets, l'odeur du vin, la fumée du tabac, les émanations des convives avaient rendu l'air de cette espèce de grenier impossible à respirer par des poitrines habituées à un air pur. Selon toute probabilité, on n'avait pas ouvert la fenêtre depuis le dernier rayon de soleil du dernier automne. Il en résulta qu'un même instinct de conservation poussa les trois amis vers la seule fenêtre qui donna de la lumière dans ce bouge et, dans les cas extrêmes comme celui où l'on se trouvait, de l'air. Pétrus y arriva le premier. Il en souleva la partie inférieure et accrocha l'anneau au clou destiné à la soutenir. La fenêtre était ce qu'on appelle une fenêtre à guillotine. Jean Taureau avait trouvé l'occasion qu'il cherchait. Il se leva de son escabeau et, appuyant ses deux poings sur la table, « Ces messieurs ouvrent la fenêtre à ce qu'il paraît, » dit-il, s'adressant collectivement aux trois jeunes gens, mais plus particulièrement à Pétrus. « Comme vous voyez, mon ami, » répondit celui-ci. « Je ne suis pas votre ami, » dit Jean Taureau. « Fermez la fenêtre. » « Monsieur Jean Taureau, » reprit Pétrus avec une politesse ironique, « voici mon ami Ludovic, qui est un physicien distingué et qui va vous expliquer en deux secondes de quel élément l'air doit se composer pour être respirable. »« Que chante-t-il donc celui-là avec ces éléments ?»« Il dit, monsieur Jean Taureau, » répondit Ludovic d'un ton de politesse qui ne le cédait en rien à celui de Pétrus, pas même dans la nuance de raillerie que celui-ci avait adoptée, « il dit que l'atmosphère, pour ne pas être nuisible aux poumons d'un honnête homme, doit se composer de 75 à 76 parties d'azote, de 22 à 23 parties d'oxygène et de 2 parties d'eau, un peu plus, un peu moins. » « Dis donc, Jean Taureau, » interrompit à son tour un des quatre hommes en blouse, « je crois qu'il te parle latin. »« Bon, alors moi je vais lui parler français, et s'il ne comprend pas, on bûchera alors. » Et Jean Taureau montra deux poings qui égalaient en grosseur la tête d'un enfant. Puis, d'une voix qui, s'il eût eu affaire à des hommes de sa classe, n'eût point admis d'opposition, « Allons, dit-il, fermons cette fenêtre et plus vite que cela. » « C'est peut-être votre avis, maître Jean Taureau, » dit tranquillement Pétrus en se croisant les bras devant la fenêtre ouverte, « mais ce n'est pas le mien. »« Comment ce n'est pas le tien? Tu as donc un avis ici ?»« Pourquoi donc un homme n'aurait-il pas son avis quand une brute en prétend avoir un ?»« Dis donc, croque en jambe, » fit Jean Taureau en fronçant le sourcil et en s'adressant à l'un de ses convives, qu'il eût été facile de reconnaître pour un chiffonnier, quand même il n'eût pas été dénoncé par le nom significatif que lui donnait son interlocuteur. « Je crois que ce muscadin de malheur m'appelle brute. »« Ça me semble aussi, » répondit croque en jambe. « Eh bien, qu'est-ce qu'il y a à faire ?» « Il y a à lui faire fermer la fenêtre d'abord, puisque c'est son idée, et à l'assommer ensuite. »« Bon, voilà qui est parlé. » Puis, comme s'il adressait à des révoltés une troisième sommation, « Allons, tonnerre, fermez la fenêtre !»« Oh !» répondit tranquillement Pétrus, « il n'y a ni tonnerre ni éclair, la fenêtre restera ouverte. » Jean Taureau emplit si brusquement sa poitrine de cet air qui semblait aux jeunes gens impossible à respirer, que cette aspiration ressembla au mugissement de l'animal dont il avait pris le nom. Robert sentit la querelle et voulut l'empêcher, quoiqu'il comprît bien que c'était impossible. Au reste, si quelqu'un pouvait arriver à ce résultat, c'était assurément lui, c'est-à-dire le seul qui fut de sang-froid. Il alla d'un air calme au-devant de Jean Taureau et essayant de composer. « Monsieur, dit-il, nous venons du dehors et, en entrant dans cette salle, nous avons été suffoqués. » « Je crois bien, » dit Ludovic, « on n'y respire que de l'acide carbonique. Permettez-nous donc d'ouvrir la fenêtre un seul instant pour renouveler l'air. Nous la fermerons ensuite. »« Vous l'avez ouverte sans ma permission, » dit Jean Taureau. Eh bien, après, fit Pétrus, il fallait la demander, et peut-être vous l'aurait-on accordé, la permission. Alors, assez, dit Pétrus, je l'ai ouverte parce que cela m'a plu, et elle restera ouverte tant que cela me plaira. Tais-toi, Pétrus, interrompit Jean Robert. Non, je ne me tairai pas. Crois-tu donc que j'ai l'habitude de me laisser mener par des drôles de cette espèce ? Au mot drôle, les quatre camarades de Jean Taureau se levèrent de table à leur tour et s'approchèrent dans l'intention évidente de seconder les mauvaises intentions du provocateur. À en juger par la dureté de leurs traits et par la férocité ou tout au moins la sauvagerie farouche dont leur physionomie était empreinte, c'étaient là quatre rudes gaillards qui, renforcés du cinquième, personnage dont nous connaissons déjà les allures, ne cherchaient comme lui qu'une occasion propice de rompre, par une belle et bonne querelle, la monotonie de leur nuit de carnaval. Au reste, il était facile d'assigner une profession à chacun de ces hommes. Celui que Jean Taureau avait appelé Croque-en-Jambe était évidemment non pas un chiffonnier proprement dit, comme aurait pu le faire croire la lanterne posée sur la table et l'instrument qui lui avait valu le nom caractéristique de Croque-en-Jambe, mais un individu appartenant à une variété de l'espèce et qu'on appelait ravageur, du nom de leur industrie qui consistait non à fouiller dans les tas d'ordures, mais à ravager avec la pointe de leur croc l'entre-deux des pavés du ruisseau. Pour cette classe d'industriels, supprimée depuis 8 ou 10 ans par ordonnance de police, et surtout par la substitution des trottoirs aux chaussées, le ruisseau se transformait parfois en pactole, et plus d'un y trouva des bagues et des bijoux, des pierres précieuses, soit perdues, soit jetées par les fenêtres en secouant une natte ou un tapis, comme dans mes mémoires, j'ai raconté que vers l'époque où se passent les événements qui font le sujet de ce livre, avaient été jetées les boucles d'oreilles de Georges, lesquelles avaient échappé heureusement à messieurs les ravageurs. Le second buveur, que Jean Taureau n'avait pas nommé et que nous, qui sommes appelés à réparer cet oubli, désignerons par son nom de guerre, s'appelait Sac à plâtre. Ce briquet qui eût suffi à révéler son état, quand même les taches de chaux et la poussière blanche dont étaient couvertes sa figure et ses mains ne l'eussent pas présenté comme un maçon à ses amis et à ses ennemis. Parmi les premiers et de ses meilleurs était Jean Taureau. La manière dont ils avaient fait connaissance ne manque pas de caractère et peindra la force herculéenne de l'homme que nous venons de mettre en scène et qui est destiné à jouer dans cette histoire non pas un des premiers rôles, mais un rôle, la suite nous le prouvera, qui n'est pas tout à fait sans importance. Une maison de la cité brûlait. L'escalier, atteint par les flammes, était tombé. Un homme, une femme et un enfant criaient « Au secours !» d'une fenêtre du second étage. L'homme, qui était maçon, ne demandait qu'une échelle ou même une corde. Avec cette échelle ou cette corde, il sauvait sa femme et son enfant. Mais les assistants perdaient la tête. On apportait des échelles de moitié trop courtes, des cordes qui ne pouvaient supporter le poids de 3 personnes. Le feu gagnait, la fumée sortait à bouffer par les fenêtres, précédant la flamme dont on voyait déjà les lueurs. Jean Taureau passait. Il s'arrêta. « Eh bien, s'écria-t-il, n'avez-vous donc ici ni corde ni échelle? Vous voyez bien que ces gens-là vont brûler. » Et en effet, le danger était imminent. Jean Taureau regarda autour de lui, voyant qu'aucun des objets demandés n'arrivait. « Allons, dit-il en tendant les bras, jette l'enfant, sac à plâtre !» Le maçon, interpellé de ce nom, n'eut garde de se fâcher. Il prit l'enfant, l'embrassa sur les deux joues et le jeta à Jean Taureau. Il y eut un cri d'effroi parmi les assistants. Jean Taureau reçut l'enfant dans ses bras et le passa immédiatement à ceux qui étaient derrière lui. « Maintenant, dit-il, jette la femme !» Le maçon prit la femme dans ses bras et, malgré les cris de celle-ci, il lui fit prendre le même chemin que venait de prendre l'enfant. Jean Taureau reçut la femme dans ses bras, seulement il fit un pas en arrière. « Ça y est, dit-il, en posant sur ses pieds la femme à moitié évanouie, tandis que les spectateurs éclataient en bravo et en acclamation. « Maintenant, cria-t-il à l'homme en s'arc-boutant sur ses jambes de toute la puissance de ses robustes reins, maintenant, à ton tour !» Des 2000 personnes qui assistaient à ce spectacle, il n'y en eut pas une dont on entendit le souffle pendant les 5 secondes qui suivirent. Le maçon monta sur le rebord de la fenêtre, fit le signe de la croix, Puis, fermant les yeux, il sauta en murmurant « À la grâce de Dieu !» Cette fois, le choc fut terrible. Jean Taureau plia sur ses jarrets, fit trois pas en arrière, mais ne fut pas renversé. Il y eut alors un cri immense dans la foule. Tout le monde se précipita vers l'homme qui venait d'accomplir cet incroyable tour de force. Mais avant qu'on fût arrivé à lui, Jean Taureau avait desserré les bras et était tombé à la renverse, évanoui et vomissant le sang. Ni l'enfant, ni la femme, ni l'homme n'avaient une seule égratignure. Jean Taureau avait une veine du poumon rompue. On le transporta à l'Hôtel-Dieu, d'où il sortit le surlendemain. Le troisième compagnon, qui avait la figure aussi noire que sa capelâtre l'avait blanche et qui appartenait visiblement à l'estimable classe des charbonniers, s'appelait Toussaint. Jean Taureau, qui, dans ses relations avec les architectes, avait par ceux-ci entendu parler d'un nègre de génie, lequel avait failli faire une révolution à Saint-Domingue, Jean Taureau, qui ne manquait pas d'un certain esprit naturel, l'avait surnommé Toussaint l'Ouverture. Le quatrième était un homme d'une cinquantaine d'années à peu près, à l'œil vif, aux gestes rapides, dont toute la personne exhalait une forte odeur de valériane. Il était vêtu d'une veste de velours, d'un pantalon de velours, d'un gilet et d'une casquette de peau de chat. Il répondait, dans l'intimité, au nom de Père Lagiblotte. C'était lui qui entretenait tous les cabarets de la halle de ces lapins de gouttière que Jean-Robert craignait si fort qu'on ne lui servit en lieu et place des lapins de garenne, et l'odeur de valériane qu'il exhalait était celle à l'aide de laquelle il attirait les malheureux animaux dont il vendait la chair 10 sous au gargotier et la peau 15 sous au tanneur. L'industrie était productive mais dangereuse, et nous nous rappelons avoir lu, vers 1834 ou 1835, le compte-rendu d'un procès où un confrère du père Lagiblotte fut condamné à 1 an de prison et 500 francs d'amende, malgré le plaidoyer éloquent dans lequel il avait, en traitant la question gastronomique à la manière de Carême et de Brillat-Savarin, essayé de démontrer au juge l'incontestable supériorité de la chair du chat sur celle du lapin. Le cinquième acolyte, que nous reportons à la fin en vertu de cet axiome évangélique « les premiers seront les derniers », le cinquième était Jean Taureau lui-même, lequel, d'après ce que nous venons de raconter de sa force musculaire, pourrait se passer d'une plus ample description si nous ne tenions pas à préparer, par un portrait physique aussi exact que possible, le développement moral d'un des caractères les plus singuliers que nous ayons connus. Jean Taureau était un homme de 5 pieds 6 pouces à peu près, droit et solide comme les poutres de chêne qui l'écarissaient, étant charpentier de son état. Espèce d'Hercule Farnèse, taillé dans un bloc de granit, bloc lui-même et qui, à la première vue, au lieu d'avoir besoin des 4 alliés qui s'avançaient à son secours, semblait bâti de manière à écraser l'un après l'autre ses 3 ennemis rien qu'en les touchant du doigt. Maintenant, si nous passons de la description du corps à celle de la physionomie et des vêtements, nous dirons que le visage du garçon charpentier, encadré de favoris noirs et épais qui lui faisaient un collier sous le menton, était celui d'un homme de 30 à 40 ans. Des cheveux courts et crépus, dont les anciens avaient fait, chez le fils de Jupiter et de Sémélé, le symbole de la force. Un cou dont la grosseur justifiait le nom ambitieux que notre homme s'était donné lui-même ou avait accepté de ses camarades, complétait l'ensemble de ce type de la force inintelligente et brutale. Ajoutons un détail oublié, Jean Taureau était vêtu d'une veste, d'un pantalon, d'un gilet et d'une casquette de velours verdâtre à côtes. De la poche de sa veste sortait le sommet d'une équerre en bois et du gousset de son pantalon la tête d'un long compas de fer placé à cheval sur la couture, de façon qu'une des branches se perdait dans la sacoche et que l'autre pendait en dehors. Tels étaient les 5 antagonistes auxquels allait avoir affaire, à moins qu'ils ne reculassent, et peut-être n'était-ce pas un moyen infaillible d'éviter la querelle, auxquels, disions-nous, allait avoir affaire Ludovic le médecin, Pétrus le peintre et Jean-Robert le poète.